Si on te frappe sur la joue droite, tends aussi l'autre. Voilà enfin un commandement clair de Jésus, et c'est bien pour ceux qui veulent une religion simple. J'allais dire applicable, mais là c'est moins simple parce que effectivement c'est quand même difficilement applicable et ça pose de graves questions. Alors comment s'en sortir? Il y a bien sûr la solution qu'on apprend aux enfants des écoles bibliques. Je commence par là. C'est de dire, bon, ben, Jésus, en fait, n'a dit les choses que d'une façon un peu exagérée et imagée pour essayer d'expliquer qu'en fait, il faut éviter de se venger. Voilà. Donc c'est assez simple. Il faut éviter de se venger parce que la vengeance n'est que l'expression d'un sentiment négatif et ça n'est pas bon. Et que se venger, rendre violence par violence, c'est faire une escalade de la violence, ça ajoute de la haine à la haine, et ça n'est pas bien. Il faut bien qu'à un moment donné, il y en ait un qui accepte de laisser passer pour désamorcer la violence. Tout ça est très juste et vrai. C'est vrai qu'il faut essayer de pardonner et d'être gentil, j'en suis absolument convaincu. Mais je suis aussi convaincu qu'on peut rendre justice un peu plus au texte et essayer de le prendre plus au sérieux que de juste le relativiser en disant que c'est une façon gentiment exagérée de dire les choses. Alors ceux qui prennent le texte très au sérieux, il y a beaucoup de solutions et je vais vous faire un petit catalogue. La première solution, c'est ceux qui disent, eh bien écoutez, ce propos est évidemment inapplicable, donc Jésus est simplement un idéaliste qui dit à peu près n'importe quoi. Par conséquent, ce texte n'a aucun intérêt et ça me conforte dans l'idée que l'Évangile n'est qu'une sorte d'utopie inapplicable. Bon, je pense que ceux qui pensent cela sont simplement des gens qui ne comprennent pas que le texte est plus malin qu'eux. De même que ceux qui, je veux vous avouer une chose, je n'ai jamais osé dire à des paroissiens, quand des gens me disent « Monsieur le pasteur, votre sermon était trop long », j'ai toujours envie de dire « Monsieur ou Madame, c'est vous qui êtes trop court. » Eh bien là, ceux qui trouvent que le Jésus est un imbécile, eh bien c'est celui qui dit qui est. Alors si on veut prendre le texte au sérieux, il y a d'autres solutions. Chaque fois, je vais chercher dans les pères de l'Église, vous savez, ces premiers théologiens du début de l'ère chrétienne, ils ont trouvé des solutions extrêmement astucieuses auxquelles je n'avais jamais pensé. L'une, c'est de dire... Il faut en faire une lecture spirituelle, et évidemment, ça n'est pas à appliquer textuellement. De même que quand Jésus dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi », c'est pas appliqué, évidemment, ça veut juste dire « Évite de te mettre dans des situations de tentation ». Donc il s'agit de le comprendre que c'est une forme de parabole, et que ça n'explique absolument pas comment réagir par rapport à la violence physique. Alors, plusieurs solutions, du coup, s'offrent à celui qui veut faire une lecture allégorique de ce passage. L'une, très astucieuse, c'est de dire, si on te frappe sur une joue, c'est-à-dire que si tu occasionnes une violence, tends l'autre joue, c'est-à-dire présente-toi d'une autre manière à l'autre, parce que peut-être que c'est la façon avec laquelle tu t'es présenté qui a généré cette violence. Ça n'est pas idiot du tout. Peut-être qu'effectivement, si je déclenche de l'agressivité de la part de celui qui est en face, c'est peut-être finalement moi qui ai déclenché cette agressivité et je dois à ce moment-là non pas me venger contre l'autre, mais me remettre en cause en disant comment puis-je me tourner autrement pour éviter d'engendrer cette agressivité. Ça m'a plu beaucoup, mais... Puisqu'on est au lendemain de cette journée pour la femme, là, contre les viols et tout, cette solution est très grave quand même, parce que cela voudrait dire que finalement, parfois, la victime serait elle-même coupable du crime qui lui a été imposé, comme quand on dit aux femmes violées, vous n'aviez qu'à pas aguicher les hommes. Donc cette solution, je la mets de côté, même si elle n'est pas entièrement fausse, mais... Bon, je laisse un peu de côté, j'en ai une meilleure dans ma poche. Plus malin. Ça, c'est très astucieux. Quelqu'un qui dit, je ne sais plus, je crois que c'est Origène, il dit, le texte ne dit pas, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, mais il dit, si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre, c'est-à-dire tends une autre joue droite. Voyez-vous ? Parce que la joue droite, c'est le bon côté, que nous avons. La joue gauche, c'est le mauvais côté. Et donc, je tends à l'autre mon meilleur côté, c'est-à-dire j'essaye d'agir vis-à-vis de lui avec amour, tendresse, bienveillance. L'autre me renvoie de l'agressivité et de la violence. Eh bien, ce n'est pas pour autant que je vais lui tendre un mauvais côté, mais inlassablement, je vais continuer d'assumer que je maintiens de me comporter avec bienveillance, générosité et amour. Magnifique comme idée. Alors eux, ils disaient ça aussi par rapport à l'art d'essayer de convaincre l'autre. J'ai des bons arguments pour essayer de convaincre l'autre de l'évangile. Cet argument est balayé. Eh bien, ça fait rien. Je vais continuer à présenter de bons témoignages jusqu'à ce que finalement, ce bon côté puisse convertir l'adversaire. C'est très astucieux et ça me plaît beaucoup aussi. Mais je crois que ça ne rend pas justice au texte qui finalement va quand même dans le sens de la non-résistance aux méchants. Donc c'est intéressant, mais je ne m'arrêterai pas là. Une solution que je n'aime pas du tout, mais finalement peut-être pas si mauvaise, c'est à partir de ce parallèle de l'Ancien Testament sur le fait de se laisser frapper. C'est, je vous l'ai dit, dans les Lamentations de Jérémie, en 3:25 et suivant, où on trouve exactement la même chose, qu'il faut se laisser frapper. « Il est bon pour l'homme qu'il tende la joue à celui qui le frappe. » Et la réponse de Jérémie, c'est « Pourquoi dit-il ça ?» Il dit « Il est bon qu'il se rassasie de déshonneur, car le Seigneur ne rejette pas toujours. Éternel, tu vois mon écrasement et tu rétablis mon droit. » Donc l'idée de Jérémie, c'est que Dieu vient nous sauver d'autant plus que nous sommes dans la misère. Et que donc nous devons essayer de compter sur Dieu pour donner la rétribution, le salut, la paix, et non pas sur nos propres forces. Cette idée, c'est donc de ne pas se venger soi-même, de ne pas vouloir se faire soi-même justice, mais finalement compter sur Dieu seul pour établir le droit. C'est ce que l'on voit dans Romains 12, où Paul dit « Ne résistez pas aux méchants, ne vous mettez pas en colère, ne vous vengez pas, laissez Dieu agir, lui rétablira le droit et fera toutes choses correctement. » Alors ce n'est pas faux, je pense que Dieu saura bien rétablir le droit et que par conséquent nous n'avons pas à nous venger nous-mêmes, ça c'est une bonne idée, mais néanmoins le danger ce serait de tomber dans une sorte de misérabilisme et de dire qu'il faudrait attirer le mal, le malheur, et jouer les victimes en se disant « plus je serai victime et plus Dieu viendra me sauver ». Ça, ce serait terrible, une sorte de masochisme qui serait de se complaire dans des situations de misère, de violence, d'injustice, pour essayer de gagner son paradis. Ça a été comme ça dans les débuts du christianisme, où les chrétiens rêvaient d'être martyrs. Ça n'est pas une bonne idée. Ça n'est pas une bonne idée, mais effectivement, il y a là quelque chose à la fois juste, pour ne pas chercher à se faire justice soi-même, sûrement, mais en même temps, nous ne devons pas nous retirer du monde pour nous réfugier dans le spirituel en disant « c'est Dieu qui va gérer les choses ». Nous sommes quand même appelés, en tant que chrétiens, à lutter concrètement contre le mal dans ce monde. Et donc, nous n'avons pas à encourager le méchant dans le mal qu'il fait, et baisser les bras, laisser la place au mal, laisser le méchant faire son crime, ce serait être complice de ce crime. Donc nous n'avons pas à laisser le méchant faire le mal. Il faut au moins essayer de faire comprendre au méchant qu'il se comporte mal, et c'est bien pour lui, et ça peut aussi éviter qu'il fasse du mal aux autres. Alors il y a, après l'hypothèse de Platon, vous savez que c'est Origène aussi qui met ce passage, notre passage, en parallèle avec un dialogue de Platon qui est le Criton. Et là, Platon met en dialogue Socrate avec Criton et Socrate demande à Criton « Est-il permis de faire le bien, plutôt est-il permis de faire le mal et est-il bien de faire acte de violence ?» Réponse de Criton « Non ». Et donc, est-il juste ou non de répondre au mal par le mal ? Réponse, c'est évidemment pas bien. C'est injuste, puisque ce serait faire le mal. Et donc l'idée du dialogue de Criton, c'est de dire que répondre au mal par le mal est toujours un mal, puisque de toute façon, dès qu'on fait le mal, on ne fait pas bien, autrement dit. Alors, Origène dit, voilà, c'est ce que veut dire Jésus, et que si on me frappe sur la joue droite et que je colle mon poing dans le visage de l'autre, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est du mal, c'est de la violence, donc dans tous les cas, ça n'est pas bien. Bon, mais ça ne résout pas entièrement le problème, parce qu'on peut quand même éventuellement éviter de tendre l'autre joue. Ce ne serait peut-être pas idiot. Et comme je vous l'ai dit, c'est jamais bien d'encourager le mal. Et donc, y aurait-il un moyen de stopper la violence, de stopper le mal? Alors peut-être qu'effectivement, une façon de pouvoir stopper le mal, est-ce que ce serait de tendre l'autre joue? Ça, c'est la solution que proposent les pacifistes avérés et assumés. Et qui disent, effectivement... Le but, ce n'est pas de tendre l'autre joue pour s'en ramasser une deuxième, ce qui est, tout le monde est d'accord pour dire que ça, ce serait absolument idiot, et nous n'avons pas à nous laisser battre et laisser vaincre le mal, mais que le pacifisme, la non-violence, peut être une solution pour enrayer la violence. Bon, on connaît tous l'exemple de Gandhi, et il est vrai que parfois, la non-violence peut désamorcer la violence. Ça peut stopper l'escalade de la violence, voire même la désamorcer. Et j'avais un de mes catéchumènes qui vivait dans des banlieues où je ne vais jamais, et qui me raconte qu'un jour, des voyous dans le métro le menaçaient avec un cutter en disant « Moi, je vais te faire une balafre !» Et le jeune, lui, il était là, et plein d'aplomb, lui dit « Allez, vas-y, fais-la ta balafre, et alors ?» Et du coup, les jeunes, ça désamorçait la violence, ne savaient plus réagir par rapport à ça, et le mal est retombé. Bon, c'était quand même osé, il faut être sûr que ça désamorce la violence, parce que s'il se ramassait une balafre, il avait perdu. Mais il y a un pari à faire, et ça peut marcher, ça peut marcher. Mais ça dépend un peu des situations. Ça peut marcher, et je l'ai vu marcher, même moi, dans cette paroisse où on ne se menace pas à coups de cutter, mais je me souviens une chose assez étonnante. Ou une fois, lors d'un repas de paroisse où la tension était très importante, une de mes paroissiennes commence à s'énerver, à crier sur tout le monde, à hurler, etc. Et j'ai un de mes paroissiens extraordinaires qui la regarde. Tout le monde était terrorisé. Moi, je me cachais dans un coin, parce que je déteste la violence. Et lui la regarde comme ça. Et tout à coup, quand elle a eu fini de faire sa crise de colère, il la regarde, il va vers elle et lui dit « Laurette, je t'aime ». Et il lui fait la bise sur les deux joues. Ce qui ne m'était peut-être pas arrivé très longtemps, parce qu'on se serre la main de loin, et elle était complètement décontenancée, et d'un coup, toute la tension était retombée. Et je me suis dit, ça c'est formidable, effectivement, voilà l'exemple. Si on te frappe sur la joue droite, dans la joue gauche, parfois, cet exemple d'amour peut permettre de désamorcer complètement la violence, et donc ça peut marcher. Le problème, c'est que ça ne marche pas toujours, mais ça peut marcher, je ne dis pas. Alors maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, parce que la solution de la violence, de la non-violence, pour tout vous dire, je la remets un peu en cause. J'ai été, moi-même, j'ai fait de nombreux sermons très, très enflammés, non-violents, en quelque sorte, et ce qui remet en cause, c'est les situations d'attentats et de violence qu'on a subies ces dernières années, où on se dit, vous avez le type, il arrive avec une kalachnikov pour tuer 300 personnes dans le Bataclan, c'est pas un bisou sur la joue qui va le désamorcer, hein, on fait lui dire je t'aime, tu es gentil, Dieu t'aime, etc., ça ne fera rien. Donc à un moment donné, il faut l'empêcher de nuire, et donc, comme dit la police, le neutraliser. On le neutralise avec une bonne balle entre les deux yeux et ça l'empêche de tuer les autres. Je ne sais pas, mais... question en tout cas que je pose, mais en tout cas voilà, le bisou sur la joue, c'est sympathique, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution à toutes les situations de violence. Alors, des solutions plus contemporaines, l'une c'est de dire qu'il s'agit en fait d'une sorte de provocation et de manière de Jésus de questionner son lecteur. Tout ça parce que en fait, il n'y a pas de réponse claire à la question de la violence. Il y a des cas où il faut faire un bisou sur la joue. Et il y a des cas où il faut l'empêcher de nuire par la violence. Et des cas où il faut fuir. Et des cas où il faut parler. Et des cas où il faut expliquer. Et des cas où il faut menacer. Et des cas... Je ne sais pas. Et donc, il n'y a pas de solution. Mais en tout cas, l'Évangile n'est pas là pour nous donner des solutions clés en main à la violence. Il est là pour nous inciter à dire, écoutez, avant d'être confronté à une situation de violence, réfléchissez comment vous pouvez réagir. Et donc, ce passage de Jésus, quand il dit « si on te frappe sur la joue droite, tend aussi l'autre », c'est une question, je vous l'ai dit, je lis ça et je dis « mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Et comment moi je réagis par rapport à la violence ? Et est-ce que c'est bien de ne pas réagir ? Est-ce que c'est bien de me laisser faire ? Est-ce que c'est bien de me venger ? Est-ce que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais il faut se poser la question. Alors, effectivement, je pense que ce questionnement, c'est une provocation pour faire réfléchir, parce que je vais me poser la question, et en fait, cela veut dire que dans chaque situation de violence, je dois trouver moi-même la réponse à cette question que je me serai posée. Voilà, et c'est l'idée, je crois, d'une prédication qui n'est pas à appliquer, mais qui est là pour nous provoquer. Ce qui fait que quand je demande à mes jeunes de dire « trouver des questions dans l'Évangile », en fait, je suis très malhonnête. Ils se disent « ah oui, je vais apprendre des choses et le pasteur va donner des réponses à mes questions ». Mais ce n'est pas pour ça. C'est en faisant ça, je les incite à justement lire l'Évangile, non pas comme un livre de recettes de bonne conduite, mais comme quelque chose qui va justement les questionner. Donc c'est pour mettre l'Évangile dans le sens d'un questionnement qui est, je crois, ce qu'il peut nous apporter de mieux. Alors effectivement, ça c'est, je crois, l'idée d'une provocation, et souvent la prédication du Christ est provocatrice, et elle nous force à nous positionner, et le fait que le commandement lui-même soit inapplicable est intéressant, parce que s'il était applicable, je risquerais de trouver la secte de ceux qui appliquent les commandements de Jésus. Or, comme les commandements de Jésus sont inapplicables, eh bien, il n'y a pas un seul chrétien qui puisse appliquer l'Évangile. C'est impossible. Personne ne l'a jamais fait. Quand Jésus dit au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi », personne ne l'a jamais fait. Même les franciscains, ils avaient quand même leur robe. Et même le plus généreux, le plus formidable, au moment où il mange son pain, il n'y a pas loin quelqu'un qui a plus faim que lui, il devrait le donner aux plus pauvres. Et donc, celui qui applique ça, il est mort dans le moi. C'est tout. Voilà, c'est simple. Donc, c'est inapplicable. Et justement, parce que c'est inapplicable, c'est déculpabilisant, parce que cela veut dire que, puisque c'est inapplicable, je n'ai pas à l'appliquer. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est absurde, parce que ce qui dit Jésus est quand même une direction, un sens qui est intéressant et qui peut permettre d'aller vers la vie, vers la paix et vers le bon sens, justement. Parce que certains disent que dans le contexte du sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, justement, il est face à des gens qui lui demandent des règles. Ils disent, donne-nous les règlements, une religion applicable. Et Jésus dit, bon, vous avez entendu qu'il a été dit, le judaïsme donne des règles de vie. C'est simple, quand vous rentrez chez vous le samedi, vous avez le droit de chauffer, plutôt chez vous, vous avez le droit de chauffer votre victuaille sur le fourneau, à condition que le gaz ait été allumé la veille. Vous n'avez pas le droit de prendre, d'appuyer sur le digicode, mais si quelqu'un passe avant vous, vous pouvez entrer. Enfin, tout est calculé, c'est très simple. Et donc, on lui demande des règles. Jésus dit, ah bon, vous voulez des lois ? Ben écoutez, parfait. Très bien, je vais vous en donner. Si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Donne à qui te demande. Ne mens jamais, ne traite jamais ton ami d'imbécile et ne désire même pas la femme de ton voisin. Voilà, c'est facile. Ça va être compliqué. Eh bien, à ce moment-là, arrête de me demander des lois. Et comprends que la relation à Dieu ne se tourne pas sur des façons de loi à obéir ou pas, mais peut-être avant tout sur le fait que je me reconnais moi-même pécheur. C'est peut-être ça, ces lois extrêmes qui me disent, mais dans le fond, moi, j'arrive pas à tout donner. Je ne sais pas réagir toujours par l'amour à l'égard de ceux qui me frappent. Eh bien, donc, finalement, ben, je n'ai pas à me sentir meilleur qu'un autre et je ne peux que demander pardon à Dieu et pardon à mes frères et sœurs et vivre avec humilité. C'est peut-être ça la religion, effectivement, déjà. Hein. C'est un bon point de départ. Mais en même temps, Jésus ne donne pas des commandements idiots. Enfin, il ne dit pas « va me décrocher la lune, tu n'y arrives pas, haha, tu vois bien ». Non, il dit des choses qui ne sont pas totalement idiotes. Et ça, c'est ma dernière solution. C'est de dire « Jésus ne donne pas une morale à appliquer, mais il présente un idéalisme utopique et positif ». C'est-à-dire, même si ce n'était pas applicable, ça n'est pas absurde. C'est exagéré, pourtant il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et même si ce n'est pas une règle de morale, il y a là quelque chose qui est juste, parce que c'est vrai. Globalement, le chemin vers lequel nous devons nous diriger, eh bien c'est, mais oui, c'est de donner le plus possible pour les pauvres. Ben voilà, combien ? J'en sais rien, donnez, et puis c'est tout, vous n'aurez jamais donné assez, mais donnez. C'est de pardonner, ben oui, il ne va pas dire pardonner, mais si vraiment il est trop méchant, pardonnez pas. Non, il n'y a qu'une règle, vous pardonnez, point. Faites que vous pouvez aller plus loin possible. C'est quoi ? C'est de réagir comment à la violence ? Eh bien, c'est de réagir par l'amour, voilà, que je voulais que je vous dise. Moi, après, la situation, faites comme vous pouvez. Et ce n'est pas idiot, je vous disais, hein, parce que je sais bien qu'aimer peut permettre de renverser la situation. Et j'aime particulièrement ce passage extraordinaire, vous savez, dans Jean Valjean, là, l'abbé, je ne sais plus quoi, Jean Valjean qui vole les couverts en argent du curé, ou de l'évêque de je ne sais plus quoi, de Gap, là. Et puis il s'enfuit, les gendarmes le ramènent au curé, lui dit « Voilà, j'ai trouvé le voleur qui a volé vos couverts en argent. » Et l'abbé dit « Mais vous avez bien fait de me le ramener, c'est formidable, tu as bien fait de revenir parce que je lui avais offert les couverts et il a oublié de prendre les chandeliers qui étaient sur la cheminée. » Et donc il a dit « Merci Jean Valjean, ben voilà, prends les chandeliers avec. » Et les gendarmes sont désarmés et Jean Valjean sera converti. Magnifique histoire. Ça, c'est ça, si on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite. Parce que, dit Paul, si tu rends le bien pour le mal, tu amasses des charbons ardents sur la tête de ton ennemi. Alors, ça me plaisait beaucoup quand j'étais jeune et rageux. Je me disais, ça va l'embêter encore plus. Je réagis, je réponds avec un sourire quand il m'insulte, ça l'agace, c'est formidable. Non, c'est pas ça. Les charbons ardents, c'est le buisson ardent, c'est ce qu'apportent les séraphins qui tiennent les charbons ardents de la présence de Dieu. C'est-à-dire que si tu arrives à rendre de l'amour contre la haine, tu mets sur lui une révélation d'une présence de Dieu, un buisson ardent et du bien qui pourra le transformer. Et ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. Donc oui, il faut autant que possible essayer de répondre au mal par le bien, ça c'est vrai. Maintenant, dans la pratique, c'est compliqué. Et que fait Jésus ? Alors ça, chaque fois, dans tous les groupes, je les prends au piège. Je leur dis, vous savez que dans l'évangile de Jean, il y a un moment donné où les gardes mettent une claque à Jésus. Donc, question, que fait Jésus ? Alors, ils me disent, évidemment, étant l'autre joue. Et je suis tout content de mon affaire, parce que si je pose la question, c'est que Jésus ne tend pas l'autre joue. Voilà. Donc Jésus n'applique pas son propre commandement, ce qui est le début de la sagesse. Et Jésus dit aux gardes, « Pourquoi me frappes-tu ? Si j'ai bien agi, si j'ai mal agi, dis ce que j'ai fait de mal, et si j'ai mal agi, pourquoi me frappes-tu ? » Et le garde est décontenancé, il ne sait plus quoi dire. Donc c'est vrai que, peut-être c'est ça justement, cet idéal de non-violence peut être une question pour l'autre, qui peut faire avancer l'autre, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, ça ne marche pas toujours, et parfois, en tout cas, parfois, ne pas répondre à la violence serait encourager la violence, et ça n'est pas bien. Et d'ailleurs, j'ai une autre preuve, c'est que Jésus ne joue pas non plus aux misérabilistes. Hein. Plusieurs fois, on voit dans l'Évangile, Jésus, les gens qui veulent l'attraper, le prendre pour le tuer, et on nous dit Jésus s'échappa. Ça, c'est une solution intéressante, la fuite. C'est ce qu'on dit parfois aussi aux personnes qui subissent des violences, qu'elle soit conjugale ou autre, en disant, écoutez, barrez-vous, partez. Vous n'êtes pas obligé de subir sans arrêt une violence qui vous est imposée. Et parfois, il faut avoir le courage de s'éloigner de celui qui vous fait du mal. Mais en aucun cas, nous ne sommes obligés de rester dans des positions de victime. Et j'aime cette idée justement du Christ qui ne se laisse pas tuer n'importe comment. Il assume, Pâques, il accepte, il se fait tuer sur la croix. Je dirais que c'est presque son choix. Mais ça ne lui est pas imposé. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Et donc nous n'avons pas à nous mettre en situation de victime, ni à laisser le violent vaincre, parce que ce serait le triomphe du mal. Il faut essayer par toutes ces méthodes que je vous ai dites d'éviter le mal et de faire comprendre aux violents que la violence n'est pas une bonne solution. Et quand on n'y arrive pas, on s'en va. Voilà. La fuite peut être une forme de courage dans certains cas. Avec un corollaire essentiel, c'est que nous avons un Dieu qui ne se venge pas. Et ça, c'est ce que j'aime dans ces lamentations de Jérémie, où Jérémie dit ça, il dit, écoutez, souvenez-vous aussi que quand même, globalement, vous n'êtes pas terrible non plus, hein, et que vous êtes aussi parfois source de violence, sans le vouloir. Et donc, nous avons un Dieu qui ne se venge pas, nous avons un Dieu qui ne nous punit pas quand nous agissons mal, un Dieu qui toujours tourne vers nous une joue neuve et non pas celle que l'on a agressée. Et toujours Dieu tourne vers nous une joue neuve pour qu'on l'embrasse et lui-même oubliant que nous l'avons offensé. Un Dieu qui toujours nous aime, nous pardonne, nous reçoit et ne nous juge pas. Et simplement, il nous invite à nous remplir de son amour et de sa générosité pour pouvoir agir dans ce monde tant que nous le pouvons, au mieux possible que nous le pourrons, sans crainte, sans angoisse, librement et joyeusement, et en travaillant pour la paix et le progrès du bien sur le mal dans ce monde qui en a bien besoin. Amen.